Ce n'est pas seulement une promenade hygiénique du matin quand je me retrouve enfin seule pour chasser ce qui reste des brumes de la nuit, marchant dans cette petite poche de forêt primitive, ces traces impures d'un paysage avalé par la ville, comme dans toutes ces ravines encore moussues et touffues qui incisent la structure urbaine, qui n'ont pas pu être construites ni colonisées sinon par les plantes grimpantes et les buissons échappés des jardins, Lantana, Volubilis, Capucine, chèvrefeuille, je guette sans effort le souvenir, le rappel fugitif, le signe d'un paysage originel. Dans l'appel incessant des oiseaux et sous l'œil gros et fixe des dragons d'eau, ces lézards à la crête, elle aussi préhistorique, attendant une proie ou un rayon de soleil posé en équilibre sur un rocher plat à l'ombre bleue des fougères, je m'arrête, j'écoute. J'entre dans un autre temps, quittant momentanément l'espace des routes et des maisons. Comme le marcheur chercherait de l'eau ou un tronc où s'asseoir, je cherche au fond à me perdre, m'égarer dans la forêt primordiale, comme lorsque nous étions enfants et que nous décidions de nous perdre dans les alpages savoyards ou dans le jardin national d'Athènes et son foisonnement propice. Mais avec le désir plus précis, non pas tant de disparaître ni de provoquer l'anxiété des êtres proches que de me retrouver enfin dans le silence et la solitude, absorbée par la forêt ouatée, dans l'oubli bienheureux des obligations et des contraintes, marchant sur les traces des habitants originels, leurs fines empreintes effacées par le vent et la pluie, retrouvant l'acuité du chasseur et l'attention du cueilleur de baies et de champignons. Mais le paysage dans lequel je marche est un fragment de paysage découpé dans la ville, auquel sont restés attachés quelques lambeaux de nature, une récréation, un parc. C'est un paysage travaillé, cultivé, ruisseaux canalisés entre des murs de grosses pierres, marches taillées dans le rocher, murs de soutènement, qui conservent cependant un reste de sauvagerie, quelque chose de dense, de buissonneux et d'enchevêtré, mais aussi de clair, de spacieux, comme si entre les arbres et les arbustes subsistait un espace vivant, vital, l'espace précisément de la rêverie. En bas, de façon beaucoup plus visible, l'empreinte de la ville, chemin asphalté, aire de jeu avec ses inévitables toboggans, balançoires, tourelles et passerelles, filets à attraper les enfants comme des papillons, grottes qui rappellent les buttes Chaumont ou le parc Montsouris, même goût pour le faux naturel, l'artificiel qui finit quand même par se couvrir de mousse. Plus bas encore, les cordes de tennis, le café avec sa véranda de bois où je me tiens, puis le parking, l'ouverture sur les voitures et les routes. Je ne puis nullement prétendre être perdu. Une civilisation bénigne et somme toute assez peu nuisible se rappelle constamment à mon souvenir. Mon désir de sauvagerie, de solitude, de silence se heurte de tous côtés, au bruit de la ville, aux immeubles, aux machines, aux voix humaines. Et même les quelques promeneurs que je croise sur les hauteurs, dans la partie la plus protégée du parc, me rattachent au monde agité d'où nous venons. Car ils ne se promènent pas, ils courent, oreilles bouchées par des écouteurs, yeux perdus dans la concentration de leurs muscles, corps uniquement tendus vers l'exercice et la nécessité, imposés par leur propre volonté, de faire deux, quatre tours du parc au petit trot avant de se rendre au travail. Ils sont absents de leur environnement, indifférent aux appels des oiseaux, à ce champ liquide dans lequel je me plonge, aux paillettes de lumière, sous la crosse des fougères.